Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 14 janvier 2012. Nos programmes pour cet après-midi à 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h du reggae avec Jeannot Dead et à 17h FMR, c'est de l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le programme noir que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
En télé avec nous, putain.
Déjà que c'est très bavard au niveau radio. Alors, en vidéo, il faudrait couper. Voilà. Alors,
il y en a plein qui me disent on télécharge en podcast, c'est plus pratique, on peut zapper. Surtout toi, pardon.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport, Ultimatum, Dastrich et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour à vous, bonjour à tous, bienvenue dans cette 301e émission. C'est vrai que la semaine dernière, on a fait pour 3 heures hein, quand même de 300e.
Normal.
Voilà, une heure par 100 émissions.
C'était un petit peu chaud, je vais dire, mais c'était en tout cas assez fun et sympathique. Tu peux parler du sport là, je crois que j'ai un problème de câblage une fois de plus.
Ah, toi aussi?
Ouais, bah, ça y est, ok, c'est revenu. Centre. Au centre, voilà.
Au milieu.
Au milieu, oui. Bah tiens, pour la peine, toi, je vais te caler à gauche et je vais caler du sport à droite. Tac, voilà, j'ai pas trop joué sur le
plan. Ah bon?
Oui, oui. Voilà, c'est dit comme ça.
Ouais, ouais, bon, bah écoute.
Ça fait un peu polémiste.
tant qu'on n'a pas besoin de bouger, c'est bon.
Alors, j'ai beaucoup ri parce que juste avant de partir, je regardais Fox News et il y avait évidemment Aurélie qui faisait une polémique sur le fait que les talk shows du soir actuellement aux États-Unis vannent plus les candidats républicains que le président Obama. C'est scandaleux.
Ah.
C'est juste risible. Et pour rééquilibrer le temps de parole avec les Républicains, sachez que TF1 abandonne la diffusion de 24.
Ah bon, après avoir commencé? Ah ben ils n'ont pas fini la saison 6.
Ben je crois que le problème, c'est qu'ils l'ont fait deux soirs de suite et ils sont pas contents de l'audience qu'il y a eu à l'antenne. Donc on redonne les heures de diffusion.
Ah oui, 1h du matin il me semble.
Mercredi soir à 1h du matin, hein, par paquet de 3, voilà.
Bon, je comprends pas. Pourquoi les gens étaient pas devant leur télé?
C'est intolérable, hein, oui. Ben forcément, à partir de là, les gens n'ont pas suivi la série. Forcément, ça a un petit peu.
D'ailleurs, un truc avec la VOD, de toute façon.
Oui, bien sûr.
Je pense qu'ils doivent également miser sur le marché de la VOD à fond.
Même pas, parce que sur la VOD, il n'y a pas de publicité. Donc tu peux regarder les séries sans pub.
Cool.
C'est un peu con, quoi, en soi. Complètement à part, tout à l'heure du sport recevra Germain Bonnefils qui est pilote Peugeot de rallye, donc je crois qu'il sera le week-end prochain à Monte-Carlo. C'est pour ça que le supplément week-end reprend une durée beaucoup plus raisonnable de 1 heure et pas plus. Hein,
On verra.
Théoriquement.
Voilà, ça y est, c'est vanné, c'est sympa quand même pour les autres. Accessoirement, si vous êtes sur Toulouse et que vous nous écoutez en direct, sachez que aujourd'hui à la librairie Les Petits Ruisseaux à partir de 16h, Pat Lacan sera en dédicace pour Brève Insolation aux éditions Poivre et Sel et Triste Utopique à la boîte à bulles. Samedi prochain, samedi 21, toujours à la librairie Les Petits Ruisseaux, Orm dédicacera la Métamorphose de Kafka chez Delcourt. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était une vision très très noire hein, quand même de... Forcément, hein, c'est Kafka, mais où en fait, on voyait le personnage principal se transformer en...
Oui, la métamorphose.
Voilà, en cafard, c'était ouf, assez noir. Pour Le Port de la Lune, donc qui est un nouveau one-shoot chez Vent d'Ouest. Lundi 23, chez Album, à 15h, Olivier Daugier sera là pour dédicacer La Zone Rouge chez Paquet, qui est une BD automotive. Et accompagné...
Vroom.
Vroom, accompagné de Romain Hugo pour Le Grand Duc chez Paquet, prix...
Actua BD, conseil général des jeunes de Charente en 2009.
Tu es sûr que c'est pas en 2008
hein? Non.
Ok, d'accord, okay, j'étais pas sûr. Voilà, donc c'était un prix en plus qui avait été remis en direct dans le supplément week-end. Et on remettra ça d'ailleurs samedi 28, justement. En attendant, mardi.
Couvert.
Mardi 24, à la librairie Album à 15h. Et ils en sont super fiers. Et ils peuvent. Ils reçoivent Stan Sakai. Alors, Stan Sakai est un auteur d'origine japonaise qui vit aux États-Unis et qui fait du comics. Il est surtout connu pour Usagi Yojimbo Dojo, qui est l'histoire en fait d'un samouraï. Ça, ça paraît en comics.
Ouais, bah c'est du Yojimbo de Kurosawa, non?
Je pense, ouais. Je pense que c'est l'idée. C'est un lapin en samouraï. C'est un peu dans l'idée de Bonne, etc. Donc c'est de la fantasy avec des personnages un petit peu cartoonesques, mais en fait pas du tout. Faut pas se fier justement à cette première impression. Et c'est très 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 beau. C'est vraiment une grande réussite des 15 dernières années en BD indépendante. Hein, je veux dire aux États-Unis, pas vraiment underground, mais plutôt indépendante. Donc Stan Sakai sera mardi 24 à la librairie Album. On en reparlera peut-être semaine prochaine. Et nous, on en est encore à nous remettre de l'émission de samedi dernier. C'était... Il va falloir faire la retape, hein, d'ailleurs, puisqu'ils ont tous eu la fève, donc ils ont tous des films à chroniquer.
Ouais, oui, c'est vrai.
C'est vrai que c'est pas les bouses ni les bonnes choses qui manquent cette année, donc quand même...
Même les trucs moyens.
Pour tous les goûts.
Ça, il y en aura, c'est clair. Accessoirement, sur ActuaBD, Didier Passamonique a rapporté une info qui était sortie dans Le Vif, qui est la version belge du journal, de l'hebdomadaire L'Express. Une info extrêmement intéressante. Mais avant de venir à cette info elle-même, c'est en fait j'ai une petite histoire à raconter. Ça se passe en 1948. Le journal de Spirou s'était épisodiquement interrompu pendant la guerre. Et JG, alias Joseph Gillin, est en train de passer la main à Franquin. Il y a Maurice aussi qui vient de faire débuter Lucky Luke. Sauf que JG, en fait, est un inquiet. C'est un inquiet notoire. Et en 1948, on est les Américains occupent une partie de l'Europe. Les Soviétiques en occupent l'autre. Les Soviétiques viennent de faire détonner une bombe atomique. Les Américains parlent de préparer une super bombe à hydrogène. Bref, l'ambiance est un peu lourde. On est franchement dans la partie la plus active, hein, quand même, de la guerre froide. C'est-à-dire, ça y va vraiment lourdement. L'Europe de l'Est se fait verrouiller de plus en plus. Bref, évidemment, il y a de quoi prendre un petit peu peur. C'est ce qui s'est passé justement pour Joseph Gillin. Et il a pris sa femme, ses deux enfants. Il a pris deux copains, à savoir André Franquin et Maurice. Non, c'est pas Philippe, son prénom. Dis pas de blague, là, s'il vous plaît. Et ils sont partis aux États-Unis, c'est-à-dire ils sont partis en bateau aux États-Unis. Ils arrivent à New York et ils décident d'aller à Los Angeles pour aller dans les studios de Disney en faisant un crochet par le Far West. Et finalement, ils atterriront à Tijuana. Cette histoire est quand même assez importante, parce que primo, ils vont rencontrer énormément d'auteurs américains. JG va découvrir le style extrêmement réaliste de Raymond, de Caniff, de Kurtzman, de Forster. Et donc du coup, ben, il va faire évoluer son dessin, qui était un dessin humoristique. Hein. Faut pas oublier qu'il est le type qui a trouvé un petit peu la graphie de Spirou juste avant Franquin. Pour justement évoluer vers un style beaucoup plus réaliste qu'il va faire avec Don Bosco, avec ses histoires de cow-boy, avec ses belles histoires et tout ça, hein, où il va changer radicalement son dessin. Il y aura aussi une rencontre avec un New Yorkais qui dessine et qui raconte plein d'histoires absolument superbes et absolument hilarantes. Il se trouve en plus qu'il parle français et il est originaire d'Amérique du Sud. Il s'agit de René Goscinny.
Qui?
Oh, mais... À mon avis, il fera plus carrière comme scénariste, lui. Bref, c'est vraiment un épisode. C'est un épisode d'une période courte finalement, hein, mais qui va marquer la bande dessinée franco-belge, primo parce que Maurice, Franquin et Jigé vont être confrontés à énormément de choses. C'est quelque chose qui va les marquer tous les trois. Et donc,
oui, ils vont s'inspirer du comics, de la bande dessinée américaine. Oui.
Et surtout que c'est à une époque où le comics n'est pas verrouillé par la Comic Code Authority, donc il y a tous les comics d'horreur, il y a un foisonnement absolument monstrueux, il y a les super-héros. C'est la fin de l'âge d'or, hein. L'industrie est en train de s'effondrer après la Seconde Guerre mondiale. Mais en même temps, il y a cette épopée qu'ils ont fait en voiture. Alors il se trouve que celui qui sera un autre scénariste beaucoup plus tard, à savoir Yann, a travaillé avec Franquin pendant un certain temps, et Franquin lui racontait ces histoires-là. Mais il disait, mais par contre, je ne veux pas que tu le notes, je te raconte juste ça pour le plaisir, mais je ne veux pas que tu t'en souviennes. Ce que faisait Yann, c'est qu'il allait souvent aux toilettes et il notait tout par écrit dans un petit carnet à la sauvage. En même temps, il a aussi rencontré Jigé avant qu'il meure en 90, et il a aussi pas mal discuté avec Maurice, hein, c'est un peu normal, hein, ils sont auteurs et tout le reste. Et en fait, ils vont... Enfin, Yann va mettre ça derrière l'oreille. Et il voulait toujours revenir à ce Spirou des origines. D'un côté, il faisait les Innommables, hein, dans les années 80, qui avait fait scandale dans Spirou, parce que ça y allait sec sur les blagues, pipi caca et tout ce que vous voulez. Mais d'un autre côté, Yann voulait travailler avec un auteur malheureusement disparu trop vite, un Spirou des origines. Le projet est ressorti suite au succès du Spirou. Du Spirou jeune là qui a été sorti, j'ai oublié son nom.
Le Groom Vert de Gris.
Non, le Groom Vert de Gris c'était après.
C'est celui
le précédent.
C'est celui qui a été multidécoré ouais. Au temps des nazis là.
Non, le Groom Vert de Gris c'est justement au temps des nazis, c'est le précédent. Mais le Groom, Yann du coup a relancé son idée.
Je la donne ingénue.
Le journal d'ingénieur.
Demi Bravo.
Exactement, bravo. Là, bravo, Thomas, on peut le dire. Yann s'associe avec Schwartz pour relancer son projet de Spirou des origines. Donc, c'est le fameux Groom Vert de Gris qui a bien cartonné. Et il est allé voir Dupuis. Il leur a dit : j'ai envie de raconter cette histoire où Jigé, avec sa femme, ses deux gosses, Franquin et Maurice, achètent une voiture et vont de New York jusqu'à Los Angeles en road movie, tout en continuant à illustrer. À envoyer les planches pour le journal de Spirou en hebdomadaire, donc où ils font chacun je crois une douzaine de planches, hein. Donc cette traversée des États-Unis en long en large et en même temps les rencontres qu'ils font, j'ai envie de le raconter. L'histoire commence à être pré-publiée dans Spirou, paraît aussi dans Le Soir, paraît aussi dans une autre revue de pré-publication en France. L'album est annoncé pour Angoulême, 35 000 exemplaires sont tirés, hein, sont chez l'imprimeur, sont cartonnés. Et là, le fils de Gilin dit stop. Moi, je suis pas d'accord. On bloque tout. Il y a atteinte à l'image, surtout. Ça correspond absolument pas à mon père. Il le fait jurer à tous les bouts de champ, alors que mon père était.
Et puis surtout, Jigé, c'est pas que lui. Il y a sa famille qui apparaît, dont le fils lui-même apparaît dans l'album.
Donc il y a ça, il y a la fille Franquin, ce qui paraît, qui est pas contente. On n'a pas l'avis de la veuve Maurice, mais ce qui paraît, elle aussi, elle a pas vraiment apprécié cette histoire. En même temps, ils ont romancé des choses comme l'apparition de Gaston Lagaffe. Mais d'un autre côté, il y a des anecdotes qui sont totalement vraies dans le bouquin. Mais quand même, voilà, ça prend beaucoup trop de liberté sur les personnages. On en a fait des personnages de fiction, comme ils ne l'étaient absolument pas. Bref. Gringos Locos, l'album en question, est bloqué par les héritiers. Pour l'instant, c'est en cours de discussion. Dupuis pourrait le faire sortir, mais prend le risque d'un procès. Mais pas seulement d'un procès, mais aussi de perdre de son catalogue tous les Lucky Luke, les Gaston Lagaffe, dont ils ont encore la garde, les Spirou qui ont été faits à cette époque-là, plus tout le catalogue Jigé, puisqu'il a fait une production absolument monstrueuse. Bref, pour l'instant, on n'en sait pas plus. L'info. Avec des planches sont présentées sur ActuaBD dans un article de Didier Passamonix. C'est assez intéressant. L'histoire en elle-même, cette anecdote est quand même géniale, hein, à la base. Et on se dit, ah oh, punaise, mais merde, on aimerait le lire Gringos Locos. Donc on va voir si oui ou non ça va sortir. Pour l'instant, c'est retiré du catalogue de Dupuis. Ça n'est pas annoncé ni pour février ni pour mars. Donc on verra ce qu'il en est.
Moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est que même si Dupuis est un très gros éditeur, qu'ils ont média participation derrière et que la bande dessinée, c'est pas un boulot d'amateur, ça pue quand même l'amateurisme, ce truc. Parce que tu vas pas me dire que l'éditeur, il aurait pas pu se blinder avant en montrant les épreuves aux héritiers. Enfin, sachant qu'ils peuvent foutre en l'air 35 000 albums qui vont être brûlés. Enfin, moi, je suis responsable éditorial chez Dupuis. Enfin, je démissionne, quoi. C'est une faute professionnelle. C'est quand même un travail d'amateur, cette affaire. Donc, c'est vrai que, quelque part...
Est-ce que c'est un travail d'amateur, sachant que ça a été prépublié dans Spirou, dans Le Soir, qui est quand même un peu l'équivalent du monde, hein, en France, pour la Belgique, ils étaient au courant.
Oui,
aussi.
Mais comment tu peux prépublier une BD dans une revue de prépublication et qu'au moment de sortir un album, les héritiers puissent dire... ah ben vous arrêtez tout, je suis pas d'accord. C'est pas possible. C'est il y a un moment donné, ça doit être verrouillé dans un contrat, je sais pas moi.
Apparemment, primo ils ont la loi pour eux, hein, puisque c'est atteinte à la personne, diffamation, etc. et tout le reste.
Ouais, mais dans ce cas-là, peut-être qu'ils peuvent.
Bon, surtout
là,
qu'ils apparaissent directement, hein, ce sont des personnes vivantes, hein, qui
apparaissent
directement.
Après, il faut qu'ils contextualisent le truc en disant attention, c'est purement fictif. Il faut qu'ils mettent dans une introduction. Ils peuvent pas envoyer 35 000 albums comme ça.
Et ça n'est pas la première fois qu'on fait la vie d'auteur en bande dessinée légèrement romancée. Il y a eu l'histoire d'Hergé, co-scénarisée par Benoît Mouchard d'ailleurs, hein, qui était sortie il y a une époque. C'est pas une première fois. C'est vrai que des fois ça a grincé, sauf que là on est vraiment surpris que ça prenne ce genre de proportions. C'est dommage, parce que quand même de la planche qu'on a lue, et de la bande-annonce vidéo, du peu qu'on a lu, c'est quand même engageant. C'est pour les gens qui s'intéressent à la bande dessinée de cette époque, je pense que ça va être un très beau cadeau qu'on pourrait faire pour nos parents et tout le reste. Et mince, ça donne envie.
Et puis surtout qu'ils peuvent pas se mettre à dos non plus les héritiers de ces grands auteurs, parce que ça fait aussi c'est le fleuron de la collection Dupuis quand même. S'ils se mettent à dos l'héritier de Franquin... l'héritier de Gigé, l'héritier de Maurice, c'est sûr que ça la fout mal, quoi.
Il est midi et 17 minutes dans le Super Weekend, c'est la 301ème et on va entamer les sorties bande dessinée avec un Tezuka, le chant d'Apollon, c'est sorti dans la collection Sensei chez Kana. Alors, avec le chant d'Apollon, on est un peu dans le style de Phoenix, du même auteur, c'est une collection d'histoires courtes, à travers les arges, qui se termine toujours par un drame et avec un nombre restreint de personnages principaux en guise de fil conducteur. Mais la thématique est l'amour et la folie. À vrai dire, en postface, Tezuka explique pourquoi cette thématique. Le Japon, depuis le début de l'ère Meiji, s'est imprégné des mœurs prudes de l'Occident. Par exemple, les bains publics, qui étaient mixtes pendant le 19e siècle, sont séparés à partir de 1870, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Mais on est en 1967-1968 et est conduit, suite à un documentaire de la NHK, un débat sur l'éducation sexuelle des jeunes. Alors, il faut savoir que la classe politique japonaise est extrêmement conservatrice, qu'elle devait l'être encore plus quand même à l'époque. Bref, on imagine que le débat n'était pas absolument évident. Et Go Nagai avait déjà commencé à érotiser certains de ses personnages. Alors, il n'était pas encore le créateur de Mazinger Z, alias son contrée Goldorak, mais on imagine que cette initiative faisait déjà débat. Tezuka voulait lui aussi intervenir dans le débat, d'où cette série, Le Chant d'Apollon. Mais ça reste encore relativement soft. Néanmoins, il remettra ça 2 ans plus tard avec son dessin animé Cléopâtre, qui lui est ouvertement érotique. Le chant d'Apollon intervient aussi à un moment charnière chez Tezuka. D'abord, il est en pleine crise pour sa société Tezuka Productions, qui produit à la fois ses mangas et les adaptations en dessin animé. Crise de croissance, problème de financement, opposition avec une partie des salariés. Bref, ça se ressent dans le chant d'Apollon par son côté très noir. Alors venons-en au destin de Chikaichi Shogo, le personnage principal. Un jeune garçon violent et sadique qui prend un malin plaisir de tuer des animaux, surtout quand ils sont en couple et un seul pour briser le cœur de l'autre. Sa mère est une fille de joie qui donc monnaie son corps auprès de différents messieurs. Chikaichi était donc vu par sa mère comme une gêne et a été traité comme tel quand il était enfant. Évidemment, il ne connaît pas son père. Devant son comportement déviant et dangereux, le directeur de l'hôpital psychiatrique décide de le soumettre à une suite d'électrochocs. Le traitement est brutal et Chikaichi va croire qu'il va mourir. Il sera confronté à la déesse de l'amour qui, pour le punir, lui promet un destin digne de Tantale. Il aura 1000 réincarnations et connaîtra l'amour, mais dès que cet amour se manifestera, soit lui, soit la fille aimée mourra instantanément. Est-ce une illusion ? Est-ce vraiment une malédiction ? Tout porte à croire que les deux réponses sont justes. Et bien rapidement, Chikaichi va se rendre compte qu'il est toujours amoureux du même visage. Qu'elle soit une juive déportée alors qu'il est SS, d'une photographe alors qu'il est pilote, d'une reine surhumaine alors qu'il est esclave, est toujours le même destin fatal qui le frappe encore et encore, de même que ses pulsions haineuses et meurtrières qui peuvent le reprendre à n'importe quel moment. L'érotisme, honnêtement, il n'y en a pratiquement pas.
Ouais, c'est quand même en slip, hein.
Exactement. Par contre, la lecture des planches est un vrai régal en termes de mise en scène et de citation. Un fugitif qui court dans une ville peuplée de voitures, des personnages fuyant dans des cases inclinées à 90 degrés, des idées de mise en page, de mise en scène ne manquent pas. La tragédie prend au trip, les montées de violence sont angoissantes et la maîtrise de Tezuka font que même si ces histoires ont 40 ans, on en a encore beaucoup à apprendre de la part du dieu du manga. Vraiment, là-dessus, c'est en plein milieu, on se dit. Ouais, mais cette planche, elle est fabuleuse. Évidemment, contrairement à Astro Boy ou au Roi Léo, ce n'est pas franchement une manga pour enfants, mais plutôt pour ados. Le chant d'Apollo d'Osamu Tezuka, c'est en un seul album, c'est dans la collection Sensei Shikana. Parce que Thomas m'avait dit non je ne le lirai pas et tout, ça me semble hyper noir.
Ah non j'ai pas dit ça, non c'est l'autre t'avais dit, mais celui-là ouais non c'est tu te même enfin pour Tezuka il faut un peu aimer la bande dessinée pour lire du Tezuka, parce que il faut quand même avouer que c'est une BD qui date de 40 ans, et donc c'est vrai que tu montres ça à des gens qui sont pas forcément passionnés par la BD, qui vont chercher une BD comme ça pour passer le temps, c'est sûr que ça fait vieillot quelque part pour le non-amateur. Mais pour l'amateur, c'est comme si... Enfin, c'est comme les passionnés de vinyle et tu découvres un vieil album comme ça et puis tu as... Oh, le son. Ben, en fait, c'est pareil. Tu vois la BD, tu vois que ça a vieilli. Enfin, que ça a plutôt un graphisme d'une autre époque, pas vieilli. Mais et c'est comme quand tu vois les planches du gars qui a fait le fleuve Shinano ou la biographie de Kusai. Enfin, c'est Shotaro Ishinomori. Prends ta claque et puis tu dis ouais, c'est bon, je vais reprendre mes crayons. Et puis, voilà.
c'est exactement ça. Par contre, l'histoire suivante est beaucoup, 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 beaucoup plus noire. C'est un auteur contemporain de manga nouveau, à savoir Kentaro Ueno, pour un one-shot très grave. C'est dans la collection Made In, toujours chez l'éditeur Kana. Ça s'appelle Sans même nous dire au revoir. Et c'est un livre qui, en fait, est une œuvre de deuil d'un dessinateur envers sa femme disparue. Kentaro Ueno est un dessinateur de manga qui doit tenir des délais de production hebdomadaires absolument dantesques, et il a installé son atelier à l'étage au premier étage de sa maison, et en dessous au rez-de-chaussée il y vit avec sa femme et sa fille. Un soir, alors que Kentaro descend à son appartement, il trouve sa femme qui est face contre terre, ne respirant plus, les mains froides. Immédiatement, il tente de lui faire du bouche à bouche ou un massage cardiaque et un message cardiaque, car cela fait très peu de temps qu'elle est dans cette position et les secours vont vite venir. Mais malheureusement, il est trop tard et elle ne se réveillera pas. Il faut donc réaliser la situation, mais surtout il faut répondre aux questions de police, appeler les proches, s'occuper de sa fille, préparer les cérémonies et aussi bousculer le planning de l'éditeur et des assistants. Alors on imagine la détresse de l'auteur et surtout les regrets de cette disparition subite. L'amour qu'il portait à sa femme, le soutien mutuel, elle, à son travail très prenant de dessinateur, lui, à sa maladie, elle est asthmatique, et à la dépression dans laquelle elle essayait de surnager. C'est un album empli d'une immense tristesse. Des images où les autres ne sont représentés qu'en silhouette, la maladie et la mort qui rôdent comme des bêtes, et surtout des scènes étranges. Que cela soit la recherche d'un magnétoscope qui puisse lire des cassettes d'il y a 10 ans, ou encore la fille qui regarde le voyage de Chihiro à la télé, dans le salon, à côté du cercueil de sa mère. Lire ce livre est assez difficile de chroniquer aussi. L'auteur parle de valeurs qui sont universelles dans nos sociétés dites modernes, à savoir la maladie, le travail très prenant, la distanciation de la mort par rapport à la vie quotidienne. Cette histoire est un devoir de mémoire qui conclut son travail de deuil. 5 années après, elle refait sa vie, mais ce livre est une très belle œuvre et preuve d'amour. Alors, clin d'œil, félicitations plus exactement à l'éditeur Cana pour une édition française en vernis sélectif avec les gouttes qui détrempent la couverture.
Alors, les gouttes, à mon avis, c'est pas de la pluie. Hein.
C'est clair. Et c'est vraiment très beau. Et là aussi, on n'est pas dans un dessin qui est extrêmement réaliste. À tout moment, on peut perdre pied, entre guillemets, avec la réalité. On a vraiment l'état, l'émotion. Du narrateur qui surnage dans le dessin et c'est absolument superbe.
Il faut pas avoir envie de se tirer une balle avant quoi.
Ah non, là c'est clair, là-dessus c'est absolument superbe. C'est sorti en novembre dernier parce que c'était pas facile à chroniquer, je l'ai lu d'une traite mais voilà, il me fallait un peu de temps pour pouvoir appréhender l'objet et le sujet. Mais en tout cas voilà, c'est vraiment beau. Kentaro Ueno, sans même nous dire au revoir, c'est dans la collection Made in chez Kana. Trois fictions, cette fois-ci Made in France.
Alors avant, je m'étais engagé à parler, mais je vais pas faire une chronique, ça on n'a pas le temps, mais de Zone Rouge, tome 1 Carrera.
Il est en chez Paquet et il est en dédicace donc lundi, Olivier Daugier. Donc vas-y, oui. Je t'en prie.
Olivier Daugier, donc voilà, Zone Rouge, tome 1 Carrera, c'est chez Paquet dans la collection Calandre et c'est ça se passe... dans les années 50, voilà, les années 50 et voilà, donc c'est pour les accros aux automobiles un peu vieillottes. Alors là où toi t'en avais parlé quand tu avais fait la chronique, mais c'est ça qui frappe. Pourquoi j'en parle, c'est parce que j'avais dit tiens, le graphisme vraiment ça donne pas envie et tout, et tu m'avais dit bah lis-la et on en reparle quand tu l'auras fini. Et moi j'avais dit je m'engage à le chroniquer si j'aime bien. Alors effectivement c'est pas ma tasse de thé, je le redis, mais par contre oui c'est, je ne dirais pas que on n'a pas eu de plaisir à lire cette BD, parce qu'il faut pas bouder son plaisir. C'est une bande dessinée à la narration tout à fait sympathique, puisque ça reprend les codes narratifs de l'époque. Alors c'est marrant, comme tu disais, il y a des cases où il n'y a pas de bord de case, c'est plutôt des personnages qui se flottent un petit peu, la narration, les scènes de coucherie, moi j'étais mort de rire quand j'ai vu ça, parce que c'est vraiment... il part, la nana, elle s'enlève le chemisier avec les sous-vêtements de l'époque et tout, et puis après ça s'interrompt quand le mec il est en train de parler à la nana.
C'est très prude. Hein.
Voilà, torse musclé en avant et tout, et puis après tu les retrouves ensuite, on voit qu'ils ont fait l'amour et tout, mais ils sont quand même tout à fait habillés, et puis ils sont le brushing absolument impeccable, donc c'est très rigolo. Et voilà, donc
on parlait des BD de Joseph Gilin, on n'en est pas loin.
Voilà, donc en tout cas, c'est une BD qui a un certain charme, je dois l'avouer, même si moi, je ne me la serais pas procurée spontanément, mais c'est vrai que C'est un bel objet quand même. Voilà, donc Zone Rouge, tome 1 Carrera de Philippe Pinard et Olivier Daugé dans la collection Calandre chez Paquet. Et
voilà, la Carrera voilà. En question, c'est la Porsche Carrera. Voilà. Et c'est aussi au moment de la sortie de la DS. Donc il y a plein d'infos.
Nintendo DS.
Je sais pas si c'est.
Enfin, tu, moi, tu l'avais je... pas déjà
Oui, oui, tout à fait.
C'était un pari. Je disais que c'était un luge, j'en parlais.
Non, je croyais être entré dans une autre dimension là.
Mais j'avais dit
Thomas
que
Thomas qui chronique un ligne claire des années 50, 60, qui parle de bagnole en plus.
Mais j'avais dit que quand je l'avais chroniqué, par contre, il y a une chose qui donne immédiatement envie de faire, c'est de te plonger dans les détails techniques sur les tractions avant et tout.
Pas moi, non.
Moi, je m'y étais plongé, voilà. Je tiens à signaler d'ailleurs à ce moment-là, j'avais dit qu'il fallait soutenir la Wikipédia. Il y a Rémi Matisse qui passe à Toulouse ce mardi. Voilà. Sachant qu'en ce moment il y a Adrien Alix qui est à Toulouse pour les conférences TEDx Capitole qui ont lieu en ce moment.
Sinon, on parlait de trois bandes dessinées françaises. Donc, je les sors pour vous les montrer. Il s'agit d'un nouveau label chez l'éditeur Ankama qui s'appelle Hostile Holster. Et donc là, il y a une belle...
La maquette est sympa.
Voilà, la maquette graphique, il y a une certaine cohérence dans les trois albums. Et c'est vrai qu'on est toujours dans la couleur très noire de cette émission puisque c'est un label, Hostile Holster, qui est censé promouvoir la culture du crime. Donc,
comment il dit déjà, Castle ? Il y a deux types de personnes qui vivent du meurtre. Je suis dans celle qui paie le mieux.
Ouais, c'est dans Mérine.
Non, c'est l'introduction de la série Castle.
Ah, de Castle, oui.
Alors, j'ai entendu le crime ne paie pas.
Ouais, voilà, les psychopathes et les écrivains. Il dit oui, voilà, la catégorie qui paie le mieux, voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais, et donc c'est un label qui avait été commencé il y a quelques temps quand même avec deux albums qui étaient passés relativement inaperçus, que moi j'avais pas trop aimé. Ça s'appelait les deux tomes de We Are The Night et l'album Silence qui était fait d'après photo. Ça n'avait pas trop emballé, pourquoi je n'avais pas parlé. Et là par contre, trois albums lancés à grand renfort d'opération marketing coup de poing par l'éditeur. Donc trois titres qui s'appellent Blue Estate tome 1, Mafia Tabloids, donc c'est un one shot, ainsi que Gyakushu tome 1. Donc il s'agit de deux bandes dessinées américaines et une bande dessinée italienne. Et donc Blue Estate, si je vous dis certains noms, peut-être que ça va vous faire tilt. Si je vous dis Victor Kalvachev et Nathan Fox, peut-être pas. Donc c'est un duo qui était déjà à l'œuvre sur le tome 4 de DMZ, Tears Ami. Qui avait secondé Riccardo Burchielli puisqu'ils sont voilà. Et donc en l'occurrence Victor Kalvachev, c'est lui qui chapeaute cette série Blue Estate, dont la couverture, c'est lui qui fait la couverture et c'est absolument magnifique.
Oula.
Et
dirait du Serge Biro, il doit s'en inspirer.
Pas moins de 4 dessinateurs se succèdent sur cette série: Toby Cypress, Robert Vallée, Nathan Fox et Victor Kalvachev, donc quatre dessinateurs américains, dans une série qui se veut un hommage aux histoires pulp autour d'Hollywood, des histoires pulp américaines. Donc c'est voilà, on a des détectives privés un peu louches, des femmes fatales, des boîtes de striptease, des coffres remplis de cadavres et des whisky qui coulent à flot, peuplé de losers, de règlements de comptes. Voilà, ça se passe dans le milieu de la nuit.
Et en plus, c'est génial parce que les illustrations hors texte sont des reprises de couvertures de journaux à scandale. C'est vraiment
voilà,
sympa.
C'est un certain charme.
Ah, la gueule.
Pour l'instant, l'histoire ne décolle pas trop parce qu'il y a beaucoup d'histoires annexes, de personnages qui sont pas trop liés les uns avec les autres. Donc pour l'instant, ça reste assez confus. Mais tu vois qu'il y a un potentiel. Et surtout, peut-être que du sport verra ça, mais tu peux voir aussi le personnage de Bruce Maddox. Au départ, c'est une star de cinéma, et d'après moi, il est ouvertement calqué sur le visage de Steven Seagal, puisque c'est un acteur de films d'action avec une fossette au menton, quatre gants, cheveux bruns qui sont tirés vers l'arrière. C'est assez évident. Donc voilà, je trouve que c'est une série sympathique. Faut voir pour la suite. Mafia Tabloids. Donc là, on change totalement de genre. Donc ça, c'est une bande dessinée plutôt dans le crayonné. Une bande dessinée italienne qui s'inspire, c'est un one-shot qui s'inspire d'un fait réel qui est intervenu dans l'Italie des années 70, où le jeune Peppino Impastato, qui est pourtant issu d'une famille du milieu, devient l'un des grands activistes anti-mafia par le biais d'une émission radio très très engagée qui est un gauchiste et il meurt. Et sa mort a longtemps été passée sous silence, n'a pas été reconnue officiellement comme un assassinat. Et
c'est Est-ce que c'est une histoire vraie ?
Oui.
D'accord.
Et c'est seulement en 2002 que le parrain local Gaetano Badalamenti passe devant la justice. Et c'est un fait réel italien qui a soulevé justement l'opinion publique. Voilà, donc moi cette bande dessinée c'est quand même le fleuron du label pour l'instant, puisque tant au niveau scénario, parce que tu vois qu'il y a quand même des témoignages véridiques, donc il y a le frère du défunt qui est interviewé, on voit le travail d'enquête des auteurs, comment ils ont appréhendé le fait réel pour en faire un scénario de bande dessinée, et puis t'as le trait aussi qui est dans un crayonné magnifique qui rappelle un peu un côté rough, mais qui est très 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 nerveux, très dynamique. Donc voilà, Mafia Tabloids, donc le scénariste s'appelle Marco Rizzo et le dessin est de Lelio Bonacorso, donc c'est de la bande dessinée italienne. Et le troisième titre de ce nouveau label Hostile Hoster s'appelle Gyakushu. Contrairement à ce que laisse penser le titre, c'est pas du tout japonais, c'est américain aussi, de l'auteur Dan Hip. Et alors là, par contre, c'est une saga à l'arme blanche, de la boucherie sans nom. On suit le plus grand des voleurs, dont on ne saura jamais comment il s'appelle, qui a dû fuir ses anciens partenaires pour se cacher dans une campagne paisible avec sa femme et son fils. Et il est laissé pour mort, sa femme est sauvagement assassinée, son fils est porté disparu, il est amputé, mutilé. Et il revient couvert de bandages dans un style qui rappelle vraiment Marv dans Sin City. D'ailleurs, je trouve que le graphisme est vraiment... on voit une filiation avec Frank Miller. Et c'est une saga très 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 violente, très gore, très sanglante, avec des paysages enneigés qui sont assez beaux, des allers-retours narratifs qui sont un peu agaçants parfois, mais qui apportent vraiment une touche. Et Gyakushu, voilà, si vous aimez la bande dessinée qui charcle et qui est un peu sauvage, voilà, c'est une BD franchement qui est vraiment intéressante. Pour l'instant, c'est le premier tome, je sais pas combien il y a de tomes au total. Voilà, une bande dessinée américaine qui s'appelle Gyakushu avec un point d'exclamation de Dan Hip. Voilà.
Période lyonnaise, année folle, bien.
Début des années folles.
Début année folle, ouais. Oh, oh, oh. C'est pas évident des fois, hein, la programmation musicale à voler, mais ça fait quand même partie du charme. Et on reste dans les bouquins, mais cette fois-ci avec beaucoup moins d'images.
Ouais, pratiquement pas d'images, sauf celle de la couverture. C'est un bouquin que je voulais vous chroniquer la semaine dernière, mais en fait, on a été un petit peu débordés, c'est vrai. Ça s'appelle Le sang des bistes en claque d'Oli Le Bouillet, et c'est sorti aux presses de la cité dans la collection Terre de France, une collection qui est consacrée, on va dire, au polar, bien de chez nous, tu vois, bien ancré dans la culture populaire et tout, dans la campagne et tout ça. Alors on y retrouve par exemple Jean-Pierre Chabrol, Claire Chazal également dans cette collection, également Georges Coulonge, qui est également un scénariste assez connu dans le petit monde de la télé. Hervé Jaouin, Michel Jury également, lui a plutôt œuvré dans le domaine du roman fantastique, mais ça c'était dans une autre vie, on va dire pratiquement un demi-siècle en retard. Odile Bouillet, Le sang des bistes en claque. Donc alors, c'est bien parce qu'on apprend ce que ça veut dire les bistes en claque pratiquement dès le début du bouquin, en fait, et c'est pas mal du tout. Alors c'est écrit par Odile Bouillet, qui est une jeune scénariste formée à la Fémis, et c'est son premier roman. Ça se passe donc.
La Fémis étant une école supérieure de cinéma, si je me trompe.
C'est ça, École nationale supérieure des métiers de l'image et du son. Donc, dans la catégorie scénariste. Et là, ok. À lire le bouquin, on sent que c'est quand même un truc qui est bien travaillé. sans problème, qui fait la part des choses. Alors c'est bien parce que d'une part, tu t'es replongé carrément dans l'ambiance de la ville de Lyon. Alors elle a réussi à se documenter de façon assez incroyable, y compris sur l'historique de la ville, c'est-à-dire on remonte même au début de l'ère chrétienne pour tout savoir sur ce qu'est cette ville, ses secrets cachés, ses fantasmes, également ses vieilles traditions qui sont connues pratiquement maintenant mondialement. Et parallèlement à ça, eh bien, elle nous lance dans un monde de la police qui est relativement connue depuis pas mal d'années, à savoir le monde de la police scientifique. Et là, c'est pas mal parce que, bon, si tu veux, il y a une part d'historique qui est irréfutable, c'est-à-dire que c'est vrai, Raymond Locard, qui est le patron, le mec qui a instillé l'idée d'une police scientifique, c'est-à-dire qu'il va analyser les échantillons, les empreintes, tout ça, croisé avec le système de Bertillon, à savoir la collection des empreintes digitales, plus peut-être d'autres mesures de faciès qui sont plus discutables, on va dire.
Oui, c'est ça.
Mais c'est la base, on va dire, c'est français d'ailleurs, même dans ici les experts,
ils Petersen, pas de
le citer. Petersen le cite beaucoup de fois, on va dire, le père Locard, de toute façon. Et donc, c'est l'histoire d'une équipe de scientifiques. Alors, bon, c'est un petit peu pareil, c'est comme dans un épisode de série, à savoir, t'as le team bien formé, t'as pas tellement de personnages en avant quand même, quoi, tu vois, si t'as quand même un patron, le mec qui dirige un petit peu les débats et qui dirige un petit peu l'enquête. Là, eh bien, c'est un vrai flic, donc, qui s'appelle Colvert, en plus, qui a fait la Première Guerre mondiale. Il a perdu une jambe, enlevée par un shrapnel, donc il porte une prothèse et tout, mais il fait quand même partie des flics et tout ça. Et croiser tout ça avec bien une petite série de crimes particulièrement sordides concernant des dames assez âgées qui ont passé la soixante-dizaine, on va dire.
C'est ce qui n'était pas fréquent à cette époque-là.
Ce qui n'était pas fréquent à cette époque-là et qui en plus ont été assassinées et on va dire un petit peu arrangées de manière très très sadique pour l'époque. On n'était pas habitué à ce genre de truc. En plus des quelques sévices sexuels infligés. Bref, je vous passe les détails. Et tout ça, eh bien, ça donne donc une bonne enquête, on va dire, avec un petit rebondissement et tout. Mais la manière dont est narrée l'histoire, eh bien, comme il y a une petite histoire croisée qui concerne en même temps, eh bien, ceux qui étaient à la tête de Lyon, ceux qui ont fait la fortune de Lyon au siècle dernier et au début de ce siècle, parce qu'on est en plein dans un certain monde, à savoir le monde de la soie, le monde des métiers à tisser, des fameux canuts de Lyon, et de toute cette industrie qui a fait prospérer cette ville vers la fin du 19e, début du 20e siècle, avant les cotons imprimés, tout ça, bien, il y a encore les métiers à tisser. Et d'ailleurs, bistanclaque, le terme vient tout simplement du différent bruit que fait un métier à tisser lors des différentes phases, parce que ça commence par bis, ensuite ça fait temps, et ensuite ça termine par claque. Et donc c'est pour ça qu'on appelle les gens qui travaillaient sur le métier à tisser des bis en claque.
Surtout que c'était un métier qui était artisanal, puisqu'en général les métiers à tisser étaient dans les maisons. C'était pas des grands ateliers en eux-mêmes.
Il y en avait dans les maisons, mais il y en avait également justement. Mais c'est là qu'intervient justement
c'est le début de l'industrialisation.
Le début de l'industrialisation, c'est-à-dire le pouvoir placer. Parce que le problème, c'est que bien les métiers à tisser faisaient une certaine hauteur, donc on pouvait en placer dans les maisons. Mais avec l'avènement de nouveaux métiers à tisser qui viennent des États-Unis, qui sont vachement plus grands et qui sont en partie automatiques, mais qui mesurent 4 mètres de haut, ils sont obligés de les mettre dans des locaux qui sont plus grands, donc dévoués à la fabrique du tissu. Voilà. Donc c'est un roman qui est pas mal, qui est assez intéressant et tout, parce que bon, on y sent la patte de quelqu'un qui a une bonne culture, on va dire, du roman policier, qui y injecte des petits éléments comme ça, quoi, assez habilement, on va dire. C'est bien foutu, bien troussé, ça se lit assez vite et c'est vraiment relativement précis en ce qui concerne les débuts justement de cette police scientifique. Et alors là, bon, c'est bien parce que en même temps t'as également une petite guéguerre des polices entre la brigade du tigre, à savoir les fameuses brigades du tigre, qui sont les éléments, les troupes d'élite, on va dire, de la police à l'époque, et cette nouvelle brigade scientifique et tout. Donc, c'est pas mal, c'est bien foutu. Ça s'appelle donc Le sein des bistes en claque d'Odile Bouillet et c'est paru aux presses de la cité dans la collection Terre de France.
Alors, c'est un format, c'est pas le format poche, c'est le format folio et assez épais quand même.
Oui, mais ça se lit assez vite.
180 pages, on dirait.
Ouais, mais ça, c'est quand même assez gros et ça se lit quand même relativement vite. Il y a même pas 300 pages. Mais il y a pas de problème, hein, vraiment, de ce côté-là, quoi. Bon, on peut être rebuté au départ par le côté, justement, assez encyclopédique, hein, quand il y a des descriptions qui sont très précises sur l'architecture, sur l'historique de la ville de Lyon, de certains quartiers et de certaines caractéristiques propres aux Lyonnais. Bon, ben, ok, on peut se dire, ça peut paraître un petit peu guide touristique, mais c'est tellement fouillé et ça fait partie également, quand même, un petit peu intégrante de l'histoire, soit des personnages, soit de l'enquête telle qu'elle progresse. Donc c'est bien troussé, quoi. Ça permet justement de maintenir le flow et de le lire relativement vite. Donc.
Vous écoutez Radio FMR, c'est le supplément week-end numéro 301, midi 45. On va faire quand même une petite coupure musicale. Je vous propose d'aller un petit retour dans les années 80 avec Earth of Glaze par Blondie.
Lost on
Heart of Glass.
Avec l'accent.
Eh ben, ça tombe bien, Xavier, en fait, puisque c'est un morceau qui est dans le film que je vais chroniquer.
Ah wow. Non. Oh, pas possible.
Eh ouais.
Oh, c'est un hasard complet.
Hasard des coïncidences.
Ah, ouais. Mais là, j'y crois pas. Bon, bah, c'est parti alors. La chronique cinéma vous est présentée en 2D vidéo élargie 96/9e par Ultimatum.
Alors aujourd'hui je chronique un DVD, c'est très très con parce que j'ai pas eu la présence d'esprit de noter l'éditeur. Donc bon, c'est pas...
Hein. On retrouvera sinon sur la VOD.
Voilà, donc aujourd'hui je parle du film La Nuit Nous Appartient de James Gray. Alors un film qui est pas tout nouveau, qui date de 2007 quand même, mais comme du sport des fois il nous fait des chroniques de films qui sont pas d'actualité, je me suis dit bon allez hop. Et en plus c'est un très très bon film et... Ah tu l'as vu ?
Oui.
Bon, voilà, très bien. Alors La Nuit Nous Appartient de James Gray avec Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg,
ouais,
Robert
ouais,
Duvall,
ouais,
Eva Mendes
ouais,
et Tony Musante. Ouais, ouais, ouais. Alors Tony Musante, c'est un acteur qui fait partie de la catégorie, on sait jamais comment il s'appelle, mais qui
exactement
revient à chaque fois.
Voilà.
Alors à force de le voir dans des films, j'ai regardé son nom au casting et je me suis dit mais il me dit rien ce nom et pourtant je le vois tout le temps. Yes. Et c'est un sacré bon acteur. Alors l'histoire se passe dans le New York de la fin des années 80 où Bobby, donc incarné par Joaquin Phoenix, est le jeune patron d'une boîte de nuit branchée appartenant aux Russes. Alors c'est la période de l'explosion du trafic de drogue à New York à la fin des années 80, 88, 89 et la mafia russe étend son influence sur le monde de la nuit. Et Bobby, en fait, commence le film très très content de sa situation. Il a, dans le milieu de la nuit, le milieu russe, un père d'adoption, un mec qui est très très très, qui est respecté de tous, que Bobby considère comme son père d'ailleurs. Sauf que Bobby, eh bien, il se trouve que c'est le frère d'un jeune flic qui monte et qui est promu à un grade supérieur et Bobby fait surtout partie d'une famille de flics, du flic de New York et donc au départ il considère sa vraie famille comme la famille du monde de la nuit puisque c'est une famille un peu clinquante où il s'éclate, il gère une boîte de nuit, c'est lui le boss, ça se passe super bien avec sa copine qui est absolument magnifique, c'est Eva Mendes. Et justement le film s'ouvre sur bon allez on va faire notre BA de l'année, on va aller saluer la promotion de mon frère, donc il va présenter sa copine au monde des flics. Et là, il arrive dans une espèce de salle des fêtes complètement minable, assez grande, mais bon, voilà, c'est le bac de la police où c'est que des flics avec une ambiance un peu moins sympa, on va dire, un peu plus guindée, un peu plus de plouc, on va dire, des losers. Et donc il entre dans la salle et puis il présente sa copine et il dit ouais, bon, allez, on y reste pas, bon, c'est juste surtout pour saluer mon frère et mon père, et puis après on se casse. Et le film va parler du retournement de situation où Bobby justement, au hasard des circonstances, va se retrouver au cœur d'une affaire de lutte de gang entre le gang russe et les flics. Et au départ, les mafieux ne savent pas du tout qu'il fait partie de la famille des flics. Et les flics vont essayer de lui mettre le grappin dessus en lui disant « ce serait bien que tu sois notre indique ». Et lui, c'est un énorme conflit d'intérêts. Et quand il est fait état des lieux des tenants et des aboutissants de ce personnage-là, tu te dis qu'est-ce que moi j'aurais fait à sa place ? Est-ce que j'aurais continué de revendiquer mon appartenance au monde de la nuit, c'est-à-dire je ne cherchais pas des noises, je fais juste mon boulot en gérant ma boîte de nuit, c'est mon kiff, c'est ça que j'aime. Et ou bien rendre service à sa vraie famille, sa famille de sang, en disant vous êtes dans la merde, il vous faut quelqu'un à l'intérieur, je peux pas vous dire non. Et c'est vraiment un conflit d'intérêts. C'est le personnage de Bobby, il est pris en tenaille entre deux milieux, entre deux familles. Et c'est le film raconte ça. Il va devoir faire un choix entre deux familles. Et au milieu, tu as Eva Mendes, qui est sa splendide copine, qui va plus ou moins réagir plus ou moins bien selon le choix que Bobby va faire. Et donc évidemment, il va y avoir... Un fait violent qui va se passer et qui va plus ou moins précipiter son choix. Alors moi j'ai découvert ce film sur le tard, hein, puisque le film, je vous l'ai dit, il est sorti au cinéma en 2007 par James Gray, réalisé par James Gray, qui nous avait sorti, qui s'était fait connaître à
Little Odessa, il avait
voilà,
fait quoi.
Little Odessa a seulement 25 ans, 94.
Ouais. Avec, et puis il avait fait, et son premier film, alors là on n'en parle jamais quoi, mais c'est un film qui s'appelle, je me rappelle pas le prix original, mais l'idée était vachement bien, c'est le prix à payer, et c'était que des nanas, c'est ça qui était vachement intéressant, le point de vue, c'est que les différentes héroïnes qui devaient être amenées à faire un casse, je sais pas, pour payer leur facture, un truc comme ça, un truc minable et tout, mais avec Queen Latifah dedans, il y avait d'autres nanas, Jada Pinkett aussi quoi, ouais. D'ailleurs qui jouait un excellent rôle. Bref, des bonnes actrices, et c'était le premier film de ce mec et tout. Déjà ça cassait un petit peu la baraque, c'était pas mal, c'était un point de vue qui était très très intéressant, James Gray. Et ensuite il a explosé avec Little Odessa, hein, de toute façon.
Il s'est fait connaître parce qu'il a eu premier coup d'essai, 25 ans, le petit jeune, et ben avec Little Odessa, avec Tim Ross et Maximilian Schell et Edouard Furlong.
Ouais, Edouard Furlong, enfin bon, ouais. Ça va quoi.
Voilà, premier film, enfin deuxième film et premier film connu. Et puis ça lui apporte juste le lion d'argent à Venise. Ex aequo avec Créature céleste de Peter Jackson, tranquille, 25 ans, voilà. Ensuite, il revient alors il refuse pas mal de projets, il refuse de développer le script de Ennemi rapproché avec Brad Pitt. Et il écrit une adaptation de Paycheck de Philip K. Dick qui va devenir le Paycheck de John Woo. Donc je vous passe sous silence là, on n'en reviendra pas dessus. Et le long métrage suivant, c'est ni plus ni moins que The Yards, écrit entre 95 et 97 et qui voit le jour en 2000. The Yards, qui est déjà avec les acteurs qu'on voit dans La Nuit nous appartient,
avec
Joaquin Phoenix et Mark Wahlberg et James Caan. Enfin bon, voilà, Charlize Theron. voilà, bon, le mec, deux films connus, et puis bon, voilà le casting. Je sais par le biographe de Cronenberg qui était venu à Toulouse, qui nous avait dit que James Gray à l'époque, il a mis 7 ans, hein, entre 2000 et La Nuit nous appartient en 2007. Il a mis 7 ans à se remettre parce que, alors, j'ai mentionné le nom, ce film est sorti par Miramax, donc qui dit Miramax dit charcuterie au montage.
Et encore, il n'y a plus les frères Weinstein.
À l'époque, hein, ils étaient aux manettes, hein, les frères Weinstein. Et oui, et donc
avis aux mains d'argent.
C'est Edward Scissorhands.
Edward Scissorhands.
Ouais, voilà.
Harvey
Scissorhands. Et donc, voilà, il est dormant en dépression, James Gray, parce qu'il a fallu qu'il se remette, même si le film a été unanimement salué.
Oui, tout à fait.
Voilà. Et donc, il met pas mal de temps pour se remettre de ça, et donc il revient avec ce film, La Nuit nous appartient. Et donc, l'année suivante, en 2008, il sort un autre film qui s'appelle Two Lovers, qui est un film encore avec Joaquin Phoenix, qui raconte un trio amoureux sur le monde de la nuit que je n'ai pas vu. Alors, voilà, ça c'était pour James Gray. Et le film, franchement, alors on a passé du Blondie, ce morceau là ouvre le film, et je suis obligé de parler de la première scène du film, puisque après le générique on voit ni plus ni moins que Eva Mendes qui est en train de se caresser sur un canapé avec Joaquin Phoenix qui va la rejoindre, et on voit que le film s'ouvre sur une scène assez chaude, et donc ils sont interrompus par le frère de Eva Mendes qui dit au personnage de Joaquin Phoenix, tu devrais venir en bas, ça s'échauffe. Et donc on voit, il y a une introduction, donc on introduit on présente le couple, et juste en bas, il descend les escaliers, et on voit qu'il gère la boîte de nuit. Et le film, je ne vous dirai pas par quelle scène il se clôture, mais c'est l'exact contraire, c'est-à-dire c'est une construction en miroir, où il est à nouveau question du couple Eva Mendes et Joaquin Phoenix, mais dans un tout autre contexte. Et
entre-temps, il y a travail à l'écriture quoi.
Entre-temps, Bobby, le personnage de Joaquin Phoenix, aura fait son choix, et ça aura eu une incidence sur son couple, sur sa famille, sur sa santé, sur plein de choses. Et le film se finit sur un choix discutable, et tu te dis, c'est là que c'est très très fort, c'est que tu te dis, est-ce que j'aurais fait le même choix à sa place? C'est un choix radical, et tu sors du film pas lessivé, mais vraiment c'est un film qui t'interpelle. Durant le film, il sera passé beaucoup de choses. C'est un film qui se veut dans la veine du Parrain, des grands films thrillers avec règlement de compte sur où il est question de la famille. Et tu as une scène absolument sidérante de poursuite en voiture sous la pluie où Joaquin Phoenix doit être encadré par la police. qui est obligé de passer d'une planque à une autre. Et la scène est absolument sidérante. C'est une des meilleures scènes de poursuite en voiture que j'ai jamais vue, mais pas parce que c'est à tombeau ouvert et que c'est à fond la caisse. C'est parce que ce qui se passe dans la scène, c'est le meurtre d'un personnage principal et c'est vu à travers les yeux de Joaquin Phoenix qui ne peut rien faire. Et ça se passe sous la pluie, des rideaux d'eau tombent sur la pour séparer les personnages, pour séparer la construction du plan, la construction visuelle. Et au niveau du son, au niveau du montage, au niveau du choix de la caméra, du chef-op, c'est absolument magnifique. Et voilà, tu te laisses porter par ces personnages, tu trembles pour le héros. C'est un film absolument sidérant. La nuit nous appartient. Si vous aimez les films noirs, les thrillers, les grandes épopées familiales, voilà, avec un casting en béton armé, je redis, de King Phoenix, Mark Wahlberg, Robert Duvall qui est, voilà, n'en jetez plus, Eva Mendes, Tony Musante, voilà, donc c'est un film qui s'appelle La nuit nous appartient de James Gray. Si vous ne connaissez pas ce réalisateur, précipitez-vous sur Little Odessa, sur The Yards, sur Two Lovers, voilà. Et Joaquin Phoenix, il ne s'est jamais raté sur un film, il n'a jamais tourné dans des merdes à ma connaissance, il a toujours été absolument excellent. Donc voilà, c'est un film que j'ai découvert, que je regrette de ne pas avoir découvert en salle, et que je recommande absolument chaudement, et qui est un film noir, mais qui est vraiment qui est porteur d'une chaleur, d'un casting qui est vraiment béton, voilà.
Il est 13h sur Radio FMR 89.1 MHz, donc va céder la place à ça, c'est du sport, hein, puisque tu as...
On va faire un peu de télé, hein, parce que bon, bah, pour l'instant, il n'y a encore personne, là.
Voilà.
Donc,
il a dû être pris dans les embouteillages, hein, quand même.
Tu crois?
Donc voilà, Germain Bonnefils, pilote rallye auto chez Peugeot, donc qui sera tout à l'heure.
Ouais, tout à l'heure.
Interviewé par Duss.
D'ici une petite demi-heure, quand même. Hein, donc, non, mais c'est vrai, on a prévu le truc pour 13h30, hein, de toute façon.
D'accord,
ah, bon,
okay.
D'accord.
Ouais, ok. Non, mais de toute façon, il n'y a pas grand chose, hein, je veux dire, au niveau télé, je me suis limité, et puis bon, tout simplement, quoi. Ouais. Alors, si le gros truc de cette semaine, c'est quand même.
Jingle, allez!
Allez, vas-y, fais péter le jingle.
Les scénaristes se suivent et se ressemblent. Les héros s'en sortent toujours et on aime toujours ça.
C'est la loi des séries!
Alors!
Ils font du t'inquiète maintenant, quoi.
Vas-y.
Alors, là, le gros événement de la semaine, c'est quand même sur Canal+, c'est jeudi prochain, c'est dans la case, donc. Série haut de
Terra
gamme,
Nova.
On va dire Terra Nova,
du dinosaure.
Ouais, ouais, Spielberg.
Alors quand même, qui a été récompensé entre guillemets, c'est-à-dire la plupart des blogs critiques de séries ont dit c'est peut-être la série qu'il aurait fallu immédiatement arrêter. Donc Canal+, ça fait pas mal de placards publicitaires en vide, j'ai vu un peu partout, donc ils y misent beaucoup. Mais il y a pas mal de gens qui disent non, ça vaut pas tripette.
Pourquoi?
Bah, à ce qui paraît, le premier épisode passe, mais après c'est tellement convenu que il aurait pas
tout
dû.
Tout dans Spielberg, hein.
Tout dans les effets. Oh, Spielberg, The Pacific, Band of Brothers, c'était quand même.
Ouais, non, mais là c'est quand même de la SF pure et dure, hein, avec donc l'histoire d'une famille qui vit dans l'an 2100, 2200, quoi, on va dire.
Ouais, dans le futur,
et
quoi.
Non, un petit peu dans le futur, et qui va devoir se prolonger se retourner dans le passé. Pour essayer de trouver une solution, parce que le monde dans lequel ils sont, en 2100 et des
poussières,
va crever. C'est la fin, ils le savent, la fin est imminente, et bon, c'est pour ça qu'ils font un bond de 85 millions d'années en arrière pour essayer de trouver une solution, et ils vont être aidés
comme le monde. Comme le monde va mourir à cause de la pollution, on pollue avant.
Ouais. Et tant qu'à faire, autant aller sur la phase de la Terre où c'était le plus dangereux pour l'homme.
Tant qu'à faire.
Qu'on aime bien les difficultés en même temps.
Voilà, c'est ça. Et Spielberg, en plus, pour le tournage de cette série, bon, il a eu beaucoup de problèmes et tout, parce que bon, il voulait pas que ça se passe dans les endroits de tournage habituels, genre Hawaï, pour que ça ressemble, tu vois.
Pour que ça fasse la jungle.
Non, mais toutes les séries qui vont se faire tourner à Hawaï et tout, après, t'as le même décor partout dans toutes les séries. Et lui s'est dit non, et puis bon, au départ il voulait faire ça dans des états un petit peu moins huppés des États-Unis, et il s'est rabattu en dernier ressort sur l'Australie, mais le bordel qu'il y a eu, c'est qu'il a eu pas mal de problèmes avec les intempéries, les tempêtes de vent, les orages, les différents trucs.
Invasion de criquets.
Donc ça a fait que ça a coûté hyper cher quand même. Et que de ce fait-là, les délais de tournage ont été vraiment hyper longs. Au départ, c'est une série qui devait faire 22 épisodes dans la première saison, mais qui n'en fait que 13. Mais bon, c'est quand même du haut de gamme et tout, avec tout pratique.
Est-ce que c'est une série qui appelle d'autres saisons ou est-ce qu'elle se finit à la fin du 13e?
Elle se finit, mais elle est en cours de négociation pour avoir peut-être une deuxième saison, sachant que la première saison a eu un accueil un petit peu léger, on va dire, hein, de la part, parce que vu le pognon que ça a coûté, quoi, ils ont dit bon, c'est pas normal, on fait que du 7 à 8 millions de téléspectateurs pour ce truc-là, quoi, alors que ça a coûté un fric fou. Non,
à l'échelle des États-Unis, ça fait pas beaucoup. Hein.
Non, ça fait pas beaucoup. C'est pour ça qu'ils sont.
Tu sais, t'as plein de séries qui tournent à même pas 2 millions, 3 millions sur les grands networks américains. C'est-à-dire qu'après, ça passe sur M6 ou TF1, ils font plus d'audience qu'aux États-Unis.
Ah oui. Oui, mais là, c'est pas des. On parle pas de séries dont les coûts d'épisode se chiffrent par plusieurs dizaines de millions de dollars.
Mais on reste quand même dans le principe du déficit production, c'est-à-dire que en fait, les networks américains avancent la moitié du prix de production et le reste est supporté théoriquement par le producteur.
Ok, faudra quand même jeter un œil. De toute façon, donc c'est jeudi prochain à partir de 20h55, Terra Nova. Sinon, demain soir, c'est le retour tant attendu de l'inspecteur qui, depuis 13 saisons maintenant, eh bien, nous ravit et nous enchante.
Barnaby,
tous les dimanches soirs sur France 3.
Quelle est cruelle la campagne anglaise.
Le premier épisode inédit de la saison 14. 14e saison de Barnaby, tu te rends compte?
Ouais, mais c'est tellement
fun,
c'est marrant à voir quand même.
Je sais pas si tu te rappelles l'épisode qui se passe pas seulement à Colston et dans les environs, mais également du côté de Brighton, où il y a le frère de Tom, Barnaby, qui est impliqué dans cette histoire, joué par Neil DeJohn, John Barnaby, qui justement lui est en poste là-bas. Et bien John Barnaby va faire un tour du côté de Colston, et donc Neil DeJohn sera présent dans l'épisode de demain soir. Hors circuit, épisode donc inédit, avec également la présence, et là, ok, on peut se dire, ouais, c'est du haut de gamme, David Warner, s'il vous plaît, Isabelle First. Donc, demain soir, inspecteur Barnaby, à 20h35, hors circuit, tout récent, hein, il a été diffusé en 2011, donc l'année dernière, c'est sur France 3. Et sinon, demain, il y a également les Golden Globe Awards. C'est demain dans la nuit, à partir de 1h du matin. Et pour le suivre, eh bien, une seule solution, Ciné Plus Premier, qui vous diffuse donc la cérémonie en direct, en intégrale.
Alors, vous passez votre télé, vous supprimez le réglage couleur, vous coupez le son et vous mettez du Charleston derrière. Que The Artist va rafler la mise.
Ça, c'est le combat que tout le monde parle. C'est le combat entre J. Edgar DiCaprio et The Artist du Jardin.
Yes. Et il y a également le film de Clooney qui, paraît-il, a pas mal de... C'est présenté par Ricky Gervais.
Qui est l'un des talk shows du soir, si je me souviens bien, il est sur CBS, hein, je crois me tromper.
Ouais, peut-être. Allez, vite fait, des films de bagnole, il n'y en a pas tant que ça en plus. Il n'y en a pas tant que ça en plus, hein, cette semaine, c'est pour ça que j'ai carrément dû meubler avec d'autres trucs. Quoi.
D'accord. Ah ben c'est bien, on est dans la Porsche Carrera, dans la Porsche en bagnole, nous appartient.
Alors ce soir sur TCM, Taxi Driver de Scorsese, donc c'est un film de bagnole, ça, il n'y a pas de problème. Demain soir sur France 2, ça c'est pas mal, c'est la première diffusion. En clair, me semble-t-il, c'est Public Enemies de Michael Mann. Là aussi, il y a des bagnoles. Hein.
Ouais.
Si, quand même.
C'est un Michael Mann mineur, je dirais.
Oui, non, mais il y a des bagnoles.
Ah oui, ça c'est sûr, oui.
Eh oui, sans bagnole, c'était pas du Niger.
Et puis c'était les bagnoles à une époque où les bagnoles, on voyait que c'était de la belle bagnole, quoi.
Ouais, et puis bon, du moulin, quoi. Hein, du moulin. Genre 2 tonnes juste le moteur. Alors, lundi sur TPS Star. Alors là, c'est également du costaud. Blindé de Nimrod Antal. Là, c'est du fourgon blindé. Avec Columbus Short, Matt Dillon, Laurence Fishburne, Amory Nolasco. Souviens-toi, Sucre dans Prison Break.
Ah oui.
Skittle
oui.
Rich, Fred Ward. Alors là, on se dit, on sait qui est le méchant, il n'y a pas de problème, quoi, de ce côté-là. Enfin, ils ont l'air d'être tous méchants parce que bon, c'est une histoire de fourgon blindé. Puis il y a un mec qui se dit, bon, c'est pas normal, j'ai l'impression que c'est mes collègues qui vont essayer de braquer le fourgon. Bref. Mardi, il n'y a rien du tout. Mardi, il n'y a rien du tout.
Mercredi, on passe la troisième.
Mercredi sur RTL9. Ah, ça faisait longtemps qu'on ne nous l'avait pas passé. Ça n'a rien à voir avec les bagnoles. C'est rond quand même, parce que ça parle de bol. C'est Dodgeball. l'inénarrable film de ballon prisonnier américain avec Vince Vaughn et Ben Stiller. Du
absolument
bon,
risible.
Du lourd, du tatoué. Et ça, il n'y a pas de problème. C'est un des meilleurs qui est fait Ben Stiller. C'est mercredi prochain sur RTL9 à 20h30. Jeudi sur TF6, bah là c'est pareil, il n'y a pas de film de bagnole, donc un petit Alien Sex Girls. Rappelez-vous ces extraterrestres qui, parce qu'elles ont un problème de descendance et tout, elles sont obligées de descendre sur Terre et tout, de draguer des mecs dans un campus aux États-Unis quoi, pour pouvoir se reproduire.
Ah bah oui, c'est la semence de qualité.
Alien Sex Girls, jeudi prochain sur TF6. À 22h15 avec Corey Sevier, Kim Poirier et Kylie Si. Et enfin, je termine avec vendredi sur Sifi à 20h45. Un vrai film de bagnole. En plus, un excellent film de bagnole. Et c'est un excellent film rock'n'roll. C'est Christine de John Carpenter.
Grand.
Voilà, rien à dire. Et avec le même soir, donc vendredi prochain, sur Disney Cinemagic, un autre film vraiment culte de bagnole. Un amour de coccinelle, mais c'est l'original de Stevenson avec Dean Jones et tout. Alors bon, vous n'avez pas rigolé, hein, ça a bercé certaines enfances de certains. Voilà, tout simplement.
Pour ne pas les nommer qui sont en face de moi.
Bon, d'accord, ok. On rappelle rapidement l'agenda. Donc aujourd'hui en dédicace, Pat Lacan pour Brève Insolation et Triste Utopique, c'est à la librairie Les Petits Ruisseaux à partir de 16h. Samedi prochain, toujours à la librairie des Petits Ruisseaux, Orme, qui a dessiné Métamorphose de Kafka chez Delcourt et Le Port de la Lune chez Vendouest, qui vient de sortir lundi. Puisqu'il est question de voiture, la Zone Rouge, premier tome, Carrera. Donc Olivier Daugier dédicacera, c'est aux éditions Paquet. Et toujours moteur, mais cette fois-ci dans les airs, Le Grand-Duc, la trilogie, était dessiné par Romain Hugo et a été récompensé par le prix du Conseil Général des Jeunes de la Charente, Actua BD. Et c'était diffusé dans le supplément en week-end. Et ben, Romain Hugo sera à Toulouse lundi 23. C'est à la librairie Album à partir de 15h. Le lendemain, toujours à la librairie Album, Stan Sakai pour Usagi Yojimbo. Ce qui est plutôt exceptionnel que cet auteur américain soit en France. Et nous, on se donne rendez-vous, bien évidemment, le samedi 28 pour notre direct à Angoulême. Pour en même temps, le prix Actua BD, Conseil Général des Jeunes.
On se revoit avant, non?
Oui, le 21, mais oui. c'est dans le résumé, tu vois, je t'ai refait le truc. Parce que je sais que c'est la fin et qu'il y en a une. Bonjour Sushinette, bonne année, bonne santé. Tu vas bien?
Ça va très bien.
Bah super.
Si on est encore en hiver, hein.
Et
un petit coup de
Star. C'est pas très chauffé ici.
Non, mais un petit coup de Star Pilote et ça démarre dans le tout ce que tu veux. Voilà. Thomas, oui. Peux-tu faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route et qui nous ont téléchargé en podcast pour aller plus vite sur les chroniques et qui les font chier?
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'était noir, c'est noir. On avait du dépressif, du gâchis d'album au pilori, de la malédiction, une culture du crime du Steven Seagal en BD, des caresses sur du Blondie. Putain, on dirait que mes collègues vont braquer le fourgon. Et de la semence de qualité, monsieur.
Nom d'un démarreur, ils ont manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, ils peuvent réécouter cette émission, retrouver nos chroniques écrites, retrouver aussi les précédentes émissions. Laissez vos commentaires, posez aussi vos propres questions. N'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web de l'émission supplémentweekend.fr, sans accent ni tiré, supplémentweekend.fr. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz, nous sommes en direct en alternance avec Booster FM et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, Bézian, les préparatifs d'Angoulême et plein d'autres choses.
Il sera question d'ultimatum aussi, mais avec un U à la fin et pas un O.
Oh là là, il y a du jeu de mots.
Ah, du teasing.
On se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Merci de nous suivre. C'était le supplément week-end numéro 301 et restez à l'antenne du sport. Va faire un petit peu crisser les moteurs du côté de Monte-Carlo.